Bonjour David Castillo-Lopez.
Bonjour, comment ça va?
Ça va bien et vous?
Mais super. Non, pas du tout, mais sinon...
Mais oui, alors on va essayer de passer un bon moment ensemble en parlant des origines.
Oui.
Aux éditions de Noël, et contre toute attente, dans ce livre, il est beaucoup question de cheveux.
Oui, oui, le plus possible, oui.
C'est-à-dire, c'est quoi cette petite obsession quand même sur les cheveux?
C'est que c'est l'obsession des cheveux, elle vient du fait que les densités qui étaient les miennes à une époque, elles se sont amenuisées avec le temps. Et ça rend triste, ça rend très très triste, vraiment. Ça, j'ai eu des moments, j'ai déjà pleuré à cause de mes cheveux qui tombent.
Mais là, et en fait, vous y revenez dans le... Donc
C'est-à-dire que je pense que j'y reviens... je parle des méthodes pour empêcher la chute des cheveux.
Oui.
Et je parle effectivement de cette petite épreuve mais qui s'étale, alors qui s'étale sur beaucoup plus longtemps que ce à quoi je m'attendais.
Oui, oui.
Ça a commencé à 16 ans, où mon amie Louise, dans la cour, tous les garçons de la classe étaient alignés, et elle les a pris un par un, et elle a tiré nos cheveux en arrière à chacun. Et elle a fait une sorte d'oracle sur est-ce qu'on va perdre nos cheveux ou pas. Et il y avait plein de gens de mes amis qui étaient à l'abri selon elle. Et quand elle est arrivée à moi, elle m'a fait genre « Ah ouais, toi oui ». Mais je suis obligé de dire que, pendant un grand moment, je me suis dit que tout ça allait disparaître très rapidement et qu'au milieu de la vingtaine, je serais entièrement chauve. J'ai 43 ans et c'est pas...
Non, ça mais ça va. Va.
Franchement, qui... Alors ça m'intéresse. Qui, se le dirait, tout de suite, là, oui, il perd ses cheveux, par applaudissement. C'est fou, j'avais rien contre toi, et maintenant, tu me déplais. Comment ?
Louise est là ce soir.
Louise est là ce soir ? Non, elle n'est pas là ce soir. C'est pas vrai. Moi, je comprends pas l'ironie. Faut pas m'en vouloir. J'ai un problème avec l'ironie, je la comprends pas.
Très bien. Donc, en attendant, voilà. Dans ce livre, il y a un petit portrait en creux de vous. Alors, ça passe par les cheveux, mais pas seulement. On apprend que vous aimez Carlos, que vous avez longtemps téléchargé, je sais pas si c'est le cas encore, des accidents de voiture.
Je passe quelquefois... C'est pas non plus tous les jours ni toutes les semaines, mais il m'arrive d'être pris dans des vortex de vidéos d'accidents de voiture, souvent tard le soir. Et avec le problème, c'est que quand on en a regardé un petit peu... Internet comprend que vous avez cette petite déviance et on vous en propose d'autres.
C'est pas commun quand même.
Je pense que c'est beaucoup plus commun qu'on dit vu le nombre de vues qu'il y a sur ces vidéos.
Et vous expliquez
c'est ce qui est, ce qui est pas commun. Ce qui est pas commun, c'est de l'avouer en public.
D'accord.
Ça c'est.
Ouais. Et comment vous expliquez cette attirance? Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'accident de voiture?
Alors. C'est mal vu, disons. On peut commencer par là. C'est mal vu d'avoir une sorte d'attirance pour les vidéos d'accidents de voiture. C'est mal vu de ralentir sur l'autoroute pour voir un accident sur le bord de la route. C'est mal vu. On considère qu'il y a un voyeurisme là-dedans, c'est-à-dire d'imposer son regard à des gens qui n'ont pas donné la permission qu'on les regarde. C'est un peu vrai, mais il n'empêche que je trouve que il y a quelque chose de compréhensible, de presque normal dans la fascination qu'on peut avoir pour des accidents de voiture, parce que c'est une curiosité face à la mort. C'est quand même le truc le plus relou du monde, quand même, de mourir. Et en même temps, c'est quelque chose d'infini duquel on sait rien. Par lequel on est tous concernés. Donc moi, cette curiosité pour les manifestations de la mort devant nous, elles me paraissent parfaitement normales. Donc je ne dis pas que je l'excuse totalement, cette petite penchant que j'ai, mais en tout cas, je trouve qu'il s'explique assez bien.
Est-ce qu'il y a un lien entre cette préoccupation, par exemple, et le fait que vous cherchez justement, alors à contrario, l'origine des choses, le démarrage Est-ce que vous y voyez un lien
Où, en fait, il y a un lien, c'est sûr, entre mon obsession du temps qui passe et ma terreur du temps qui passe. Je pense qu'on est tous... personne n'aime le temps qui passe, c'est relou. Pourquoi c'est relou ? Parce que ça mène précisément au décès. Chez moi, et c'est très fort quand même, depuis que j'ai 6 ans, je fais genre oh, j'aurai plus jamais 4 ans. Et ça, c'est des, et voilà, donc c'est des angoisses qui concernent tout le monde. Moi, elles sont fortes et elles sont depuis toujours. Et elle se manifeste quotidiennement dans une obsession du fait de retenir les dates, du fait de garder la mémoire de tout, de garder des vieux paquets de gâteaux avec un seul gâteau dedans pour que le moment, le moment où ce paquet de gâteaux a vécu, il se prolonge pour ne pas que ça soit la fin de ce moment qui ramène d'une façon ou d'une autre à la mort. Donc c'est très fort. Et une des ramifications de cette obsession, c'est le goût pour l'histoire en général et l'origine des choses en particulier.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'origine des choses? Est-ce que c'est l'enquête, le fait de chercher, ou est-ce que c'est le versant transmission, puisque vous aimez le raconter?
Ils vont un peu ensemble, hein, le fait de s'y intéresser et de le transmettre. Pour bien le transmettre, il faut s'y intéresser correctement. Et si on peut en parler correctement, c'est qu'on l'a bien compris nous-mêmes. Donc il y a quand même un petit truc, ces deux choses qui vont ensemble. Et ensuite... Oui, non, je pense que j'ai répondu à la question.
Voilà. Ça veut dire que vous n'avez pas de préférence sur le versant enquête ou sur le versant plutôt récit de votre part? Pour vous, c'est égal, c'est l'ensemble qui vous plaît.
C'est assez intéressant ça, parce que pendant longtemps, je pense que je m'intéressais aux choses comme ça, parce que oh tiens, c'est intéressant. Et puis, en fait, ça fait tellement longtemps que j'explique des choses à la télé ou à la radio ou dans des livres maintenant, que tout ça est complètement fusionné, quoi. C'est-à-dire que genre, je me dis toujours ah ça c'est intéressant, ah ça ferait une bonne chronique.
D'accord.
Et c'est vraiment ça va ensemble, quoi. J'arrive même plus à penser à ces deux choses de façon disjointe.
Est-ce que vous aviez pensé au fait que ça deviendrait à ce point un rendez-vous médiatique qui suscite autant d'enthousiasme? Est-ce que ça, vous l'aviez pensé avant?
Pas vraiment. En fait, le moment où j'ai vraiment commencé à faire ce que j'avais... La première chose entièrement personnelle que j'ai faite dans ma vie, c'était quelque chose d'assez voisin de ça. C'était une rubrique sur Canal+, qui s'appelait « Depuis quand ?». Et je faisais « Depuis quand ça existe les choses de la vie ?» Et j'allais partout dans le monde entier pour rencontrer les inventeurs des choses. Et c'est là que j'ai trouvé un petit style personnel où je faisais déjà des chansons. Je faisais des chansons dans les épisodes. Je faisais des digressions un peu... Enfin, vraiment lointaine par rapport au sujet, donc des trucs qui sont un peu des trucs qui ont fait la patte de ce que je faisais plus tard. Donc c'était entièrement personnel. Et le premier épisode, c'était le café gourmand. Depuis quand ça existe le café gourmand? Mon enquête, ma enquête, tout de suite enquête, ça fait genre on va révéler. Bon, c'est le café gourmand, quoi. C'est, on n'est pas dans. Puis c'est pas genre le dessous du business du café gourmand. Non, il n'y a pas de.
Je mets pas la plume dans la peau, quoi. Comment vous appelez ça alors?
Si c'est une enquête, c'est juste qu'il y a une sorte de... Non, de recherche.
Vous préférez le mot recherche à enquête?
C'est juste que enquête, si tout à coup, je dis enquête de... Si moi, je dis que j'ai fait une enquête, tout à coup, on va dire, tu vas te calmer tout de suite, tu vois. Donc, en fait, voilà, c'est pour ça que j'ai une petite prudence. Mais dans les faits, vous avez raison, c'est une enquête.
Okay.
Et en fait, j'ai fait depuis, donc du coup... depuis quand ça existe le café gourmand, et donc là je l'ai montré un peu autour de moi. Il y a vraiment un certain nombre de gens, en particulier dans le monde du journalisme pur, qui m'ont dit mais qui s'en fout de qui a inventé le café gourmand. Et donc j'étais là, je sais pas, moi ça m'intéresse, je trouvais ça, et ils sont un peu trompés, parce qu'il y a eu une petite, il y a eu carrément même une résonance de ça chez les autres.
Est-ce qu'il faut aimer les gens pour faire ça?
Je crois.
Parce que c'est quand même beaucoup d'histoires de vie, on le voit bien dans votre livre. Enfin, votre livre étant, je précise quand même, finalement la continuité de vos chroniques aussi.
Parce que c'est, voilà. Tout à fait. Bon. Je pense qu'il faut aimer les gens. Mais de toute façon, en fait, toutes les créations humaines, de toute façon, il y a des gens derrière. Mais d'une façon plus générale, plus que les gens, moi, l'exaltation que j'ai eue à commencer à faire ces chroniques, d'abord pour Canal+, puis pour Europe 1, puis sous forme de livre, l'exaltation de départ, c'est d'aller voir les histoires qui se cachent derrière la banalité, en fait. C'est genre vraiment genre tout le café gourmand, il est là, machin. Et moi, je me suis vraiment dit, mais attends, je me souviens quand il n'y en avait pas. Maintenant, il y en a. Il s'est passé quoi entre les deux? Et c'est ce petit émerveillement d'aller chercher ce qui se cache derrière cette banalité du café gourmand. Mais c'est la même chose avec le grille-pain, l'aspirateur, les pilules pour le mal de mer, la cafetière, la machine à laver, tout ça. Il y a un truc genre, bon, c'est là, on le remarque à peine. Et il y a toujours eu un cheminement entre le rien du tout et le moment où ça devient banal. Et ce cheminement, il m'exalte, moi. Je pense qu'au départ, parce qu'il me fait voir justement le monde qui m'entoure avec plus de pixels. C'est-à-dire qu'après, on ne voit plus juste une machine à laver. On voit tout ce qui a mené. Et je pense que s'il y a eu une petite résonance de ces trucs, de ça chez les gens, ils ressentent peut-être cette même petite exaltation.
Il faut aimer le quotidien aussi.
Ouais, faut être curieux en fait. Faut être curieux et tout le monde du moto, tout le monde est curieux. Moi, je suis curieux. Tout le monde, c'est quoi ça fait... Ben non, vraiment pas. J'ai eu l'occasion de me rendre compte que pas. Il y a des gens pas curieux. Et en particulier, c'est fou, hein, chez des gens qui se disent très curieux, pour lesquels il y a, on pourrait dire, il y a des il y a des sujets qui méritent, en particulier dans le journalisme. Dans le journalisme, il y a vraiment des gens qui me méprisent. Hein. J'en ai vu pas beaucoup, mais qui me méprisent fort. Généralement, des gens qui considèrent que les seuls sujets valables du journalisme, c'est la dénonciation des injustices et la lutte contre les excès du pouvoir. Ça, c'est le seul sujet en fait qui les intéresse. Mais en plus, je suis tout à fait d'accord que c'est un sujet très valable et que c'est très très bien que le journalisme s'en charge. C'est juste dommage de réduire la réalité couvrable par le journalisme à ça. Voilà. Après, on comprend bien que c'est des gens qui me méprisent. Ça, c'est dommage parce que moi, je les méprise pas.
Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'hyperactivité, puisque en fait on dit ça, hein, les hyperactifs sont des gens qui ont envie de se concentrer sur plusieurs choses en même temps, tout le temps, donc il y a une forme d'effervescence permanente. Et d'ailleurs, on retrouve ça dans votre façon de dire quand vous faites des chroniques à la radio, comme dans votre façon d'écrire. Il y a une certaine énergie, un dynamisme, une force. Alors, est-ce qu'il y a chez vous, je sais pas, une personnalité qui dort peu parce qu'il y a trop à apprendre, à découvrir tous les jours, une sorte de gourmandise comme ça.
Je crois qu'il y a une gourmandise. Il y a aussi quelque chose de beaucoup plus simple, c'est que j'ai énormément glandé dans ma vie. Il y a longtemps, mais énormément. C'est-à-dire que quand à l'époque où les gens ils font genre leur lycée, genre moi je vais faire nanana, puis je vais avoir les meilleures notes, comme ça je ferai la super école, puis ensuite je vais faire machin, et je vais faire les bons stages, machin, etc. Moi j'étais là, genre. Alors pas. Je sais qu'il y a toujours, il y a des gradations dans le fait dans la glande, et j'étais pas les glandes de dernier. Enfin, j'étais pas le type qui fume des pétards en n'allant pas en cours et en jouant aux jeux vidéo. Voilà. J'ai toujours été passionné par des choses, mais de façon un peu dandiesque. Oui, on verra où ça mène. C'est un peu liquide comme ça. Et en fait, bah du coup, j'ai pas fait des études particulièrement brillante, j'étais un peu mou comme ça, et puis il y a un brusque moment où j'ai fait genre ah, en fait non, je veux faire des trucs. Et donc cette urgence que j'ai à faire beaucoup de choses, elle vient plutôt de ce moment où j'étais un branleur. Voilà. Et donc je crois que ça va, j'ai eu bon. Peut-être qu'il y a des gens, ils étalent leurs glandes de façon parcimonieuse tout au long de leur vie. Moi, j'ai fait un bloc et maintenant ça suffit. Voilà.
Et maintenant, vous ne pouvez pas vous empêcher de quoi
de travailler. Faire pas mal de choses, de faire pas mal de ouais, de je me rends compte que enfin c'est venu sur le tard, mais que un de mes grands regrets de l'existence sur mon lit de mort, ce serait genre ah putain, j'aurais pu faire ça et j'ai pas fait parce que j'ai pas assez travaillé. Il y en a un autre maintenant qui est venu récemment qui est genre de pas avoir d'enfant, ça me terrorise.
Ok, voilà. Donc là en ce moment, vous êtes en train de vous dire
ok, d'accord.
Okay. Genre, ouais. Okay. Sur faire les enfants, vous faites une enquête aussi ou pas?
Sur faire des enfants, sur comment les faire?
Oui, je sais pas.
Bah, ça, on sait, non? Ah. Je crois que c'est l'info.
Bah, je me demande si c'est pour ça que vous les avez pas encore.
Non, j'ai pas enquêté sur le fait de faire. Non, j'en ai pas encore parce que pendant un moment, je me suis dit, mais non, mais attends, faut d'abord travailler et ensuite on verra. Puis là, je crois que j'étais un peu prêt, mais ça se fait pas, en fait. Enfin, ça se goupille pas, disons. Voilà.
Bon. Y a d'autres choses que vous avez envie de faire? Alors, voilà, en vous disant, bon, bah, maintenant, j'ai déjà fait ça, c'est pas mal. Ouais. Qu'est-ce que...
D'autres choses professionnelles?
Oui, votre petite liste, là.
Ah oui, oui, oui. Non, j'ai envie de faire des vidéos beaucoup plus longues. J'ai jamais fait une vidéo de plus de 8 minutes. J'ai envie de faire des vidéos plus longues. C'est exponentiellement plus dur, donc j'ai envie de faire ça. J'aimerais bien écrire plus de chansons. Et sinon, j'ai un spectacle qui tourne beaucoup, donc, que j'ai joué d'ailleurs plusieurs fois à Bordeaux. Il y a des gens qui ont vu mon spectacle
au théâtre Fémina.
Oh, oui. Théâtre Fémina, ouais, j'ai eu 3 fois et j'aimerais bien en faire un autre. Voilà, pour l'instant, c'est
pas mal.
Voilà, et faire un enfant
dans votre livre, et faire un enfant, ça j'ai bien compris.
Oui.
Et faire un enfant, vous savez comment ça marche.
Oui. Vous avez un enfant, vous avez des enfants?
J'ai des enfants,
ouais, bravo.
D'accord, qu'est-ce qu'on fait? On continue l'interview sur votre livre? Oui. On parle de maternité comme vous voulez, hein?
Non, on peut continuer. Okay. Je pense que oui, les gens sont plus là pour ça, peut-être.
Mais ça voilà, ça a l'air de vous, ça vous préoccupe quelque part. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui vous disent aussi, tout ce que je fais, c'est un peu comme je construis quelque chose de l'ordre de la transmission. C'est pas des enfants, mais qui s'apparentent à...
Il y a peut-être un peu de ça, mais j'ai envie de dire, genre là ça va. J'ai fait quand même pas mal de trucs, et puis je peux tout à fait contenir. Surtout aussi, j'ai plus d'argent. Il y a un truc tout bête là-dedans. C'est genre par rapport à si j'avais fait un enfant à 28 ans, bon, je peux sous-traiter un certain nombre de choses. Alors on me dit genre, alors si tu pars comme ça, ça n'a pas la peine d'avoir des enfants. Non, je vais pas être le père. J'ai des clichés comme ça. Je crois qu'il y a, je sais plus, il y a un film comme ça qui s'appelle d'Orson Welles. La splendeur des Anderson, où au début, il y a vraiment une scène où, genre, il y a un père et on sent, il y a la gouvernante qui lui amène son fils. Il lui dit 2 phrases. Il dit alors, t'as bien travaillé aujourd'hui, c'est bien, ok, super, à demain. Et il ne le voit que 24 heures plus tard pour un échange à peu près aussi long. Non, c'est pas ça que j'ai en tête, mais je pourrais payer des babysitters compétents.
Parce que vous savez, dans le côté comme ça, savoir faire des enfants, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Vous savez, vous avez bien, enfin, l'époque dans laquelle on est.
Je vais foirer mes enfants. Ouais, c'est...
Hein, c'est toute une question. Faire des enfants, c'est pas seulement une seconde, c'est beaucoup.
Ah,
de choses,
c'est genre,
hein,
pour le carbone, tout ça.
Non, c'est pas, non, pour le carbone, pour, ouais, je sais pas, l'investissement, l'engagement, le temps, la personne avec qui on le fait. Enfin, c'est beaucoup de choses, non?
Mais plus qu'avant, parce que c'est toutes ces,
ah non,
toutes, ces, toutes ces données, elles étaient là avant aussi.
Non, pas plus.
Non, il y a un moment. Oui. Bien sûr. Mais là, en fait, toujours le truc de la mort. J'ai envie de passer 5 minutes avec mes enfants avant de mourir. Donc, si je l'ai fait trop tard, ça aide. Enfin, je veux dire, une autre pression que j'ai sur la tête, c'est que mon père, lui, m'a eu à 56 ans. Bon, bah du coup, il est mort, quoi. Donc, il est mort depuis un bout de temps, en plus. Donc, petit truc aussi qui amène à l'urgence. Alors, en 2003, j'avais lancé une opération Un enfant pour 2005. Ça va faire 20 ans l'année prochaine. Vraiment, voilà. Raté l'opération Un enfant pour 2005. Voilà.
Et votre père, il vous racontait beaucoup d'histoires quand vous étiez petit?
Oui, quelqu'un de très, très cultivé, très, très... charismatique, encyclopédique sur plein de trucs, gigantesque, très grand, très fort, très mieux que moi.
Vous avez la sensation que vous en avez gardé le goût de l'histoire, des histoires ou pas?
Oui, je pense un peu. Un goût, je pense, ça aurait pu m'écraser complètement aussi, hein, mais je pense que j'en ai plutôt dire. Je trouvais ça, j'aimais, il dominait complètement les. Enfin, on le regardait beaucoup. Dans les dîners, c'était vraiment lui. Et que les gens, ils étaient contents de le regarder. Il faisait un show, il prenait beaucoup de place, mais en tout cas, de ce que je voyais, très souvent, les gens étaient très contents de lui laisser la place qu'il avait envie de prendre, quoi. Je crois que j'ai bien aimé, je trouvais ça classe. Et je voulais un peu ça. Et je me souviens d'avoir, je me souviens d'une fois, d'avoir 21 ans, et je commençais à sentir que je pouvais un tout petit peu faire un peu un show. Enfin, je pouvais dire des choses et que les gens étaient intéressés et rigolaient et que j'avais peut-être une petite aptitude à faire ça. Je n'étais pas sûr, mais tu sais, on commence. Des fois, on est lourd et ça ne marche pas. Mais là, je me souviens, je suis arrivé un soir chez moi. Et il y avait, c'était l'anniversaire de ma sœur. Il y avait vraiment plein de gens dans le salon, dont lui. Et j'ai commencé à raconter mon après-midi où c'était une histoire d'échec. J'avais un groupe de musique à l'époque. Et là, on venait de jouer à Amiens pour une association qui luttait contre la création du troisième aéroport dans un semi-remorque avec du folklore, de la Picardie et des gens qui nous interrompaient pour dire non à l'aéroport, comme ça, et des gens avec des bottes et des trucs traditionnels picards, comme ça. Et c'était un moment vraiment pas glorieux, mais je suis arrivé, vraiment, j'ai tout déversé, j'ai raconté la chose de façon un peu rigolote, et genre tout le monde rigolait et était bien comme ça. Et je me souviens qu'il est venu me voir, il m'a dit genre... j'étais comme toi avant. Et genre, il y avait une sorte de petite fierté de genre, bravo. Et voilà, et il n'est pas mort très longtemps après, mais disons que j'ai eu quand même ce truc de genre, je veux être un peu comme lui, et j'ai eu une sorte de validation de mon père là-dessus. Et ce soir, c'est une petite ramification de ça, quoi. Je suis quand même en train de parler beaucoup, et vous dites rien. Donc,
et ce sens de l'humour, il vient de... Il est familial aussi, ou pas?
Mon père, alors je l'ai quand même vraiment connu à la fin de sa vie, donc je pense pas que c'était le moment où il était au top de sa forme. D'ailleurs, c'est un peu ce qu'il voulait dire quand il m'a dit ça. Mais il faisait des bonnes blagues quand même. Il faisait des bonnes blagues. Il imitait des trucs très bien. Donc ouais, il y avait un truc de lui, en tout cas, de lui. C'est vraiment une des... Ça me fait énormément de peine, vraiment, qu'il ait pas vu que j'avais fini par être autre chose qu'un dandy comme ça, quoi. Que j'en ai fait un petit peu quelque chose et que ce quelque chose lui doit beaucoup. Et ouais, ça me rend vraiment triste qu'il ait pas vu même les... Ouais. Enfin, si, à part ce soir-là, en famille.
Pas mal.
C'est déjà ça.
Et qu'est-ce que ça change de raconter les histoires avec ce petit truc? Est-ce que c'est une timidité, ou est-ce que c'est parce que ça met un peu de relief à l'histoire?
Le fait de mettre des blagues dans, ouais, les histoires vraies que je raconte.
Oui. Oui.
Je pense que c'est on dit, il y a plein de gens qui me disent genre ouais, enfin humoriste, journaliste, c'est un peu antinomique. Et je vois ce qu'ils disent, ce qu'ils veulent dire, parce que c'est vrai que si tout à coup Laurent Delahousse qui parle d'une offensive en Ukraine et qui case une petite blague où il fait un petite formule où il met un adjectif un peu trop, on va se dire mais tu fais quoi, Laurent Delahousse, enfin, surtout un, il y a des sujets qui s'y prêtent pas, et deuxièmement Laurent Delahousse, lui, il est censé incarner formellement la neutralité. Dans son ton, dans son visage, dans ses cheveux, dans tout ça, il faut qu'il transmette une idée de neutralité. Donc c'est évidemment bien qu'il n'en fasse pas. On n'attend pas non plus d'une dépêche AFP qu'elle commence à faire des blagues. Mais il n'empêche que dans la vie de tous les jours, ne serait-ce que nous-mêmes, quand on raconte des histoires d'un truc qui nous est arrivé la veille et qui est parfaitement vrai, on va essayer d'avoir l'attention de l'interlocuteur, d'être le moins ennuyeux possible. Et une des façons d'être le moins ennuyeux possible quand on raconte quelque chose de vrai, c'est bien sûr d'y mettre de l'humour, de ménager, de dire « Ah tiens, ça c'est vraiment le moment important de l'histoire, je vais pas le dire tout de suite, je vais ménager le truc pour que ça passe bien. J'ai cette petite formule qui m'est venue en tête quand j'ai vu cette chose-là. » Et c'est toujours ce truc, on raconte une histoire une fois, et la première fois elle vient à la volée, la petite formule, et puis du coup après la deuxième fois qu'on raconte l'histoire, on redit la formule. Et je pense que c'est tout à fait normal. En fait, c'est très normal, en fait, de mettre des blagues dans les histoires vraies qu'on raconte, je trouve.
Qu'est-ce que ça fait que les gens rient quand vous... Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de faire rire les autres?
Je sais pas, il y a peut-être un truc mégalo là-dedans. C'est très agréable. Mais moi, ça m'est venu tard de me dire que j'étais capable de faire ça. Genre, vraiment, on a commencé frontalement à me dire, franchement, t'es vraiment drôle comme type. À part, je veux dire, des petits moments comme ça, comme mon père, etc.
Ouais,
mais
ouais.
T'es vraiment drôle comme type, vraiment, vraiment. J'avais 29 ans, quoi. Donc, c'est... j'adore. J'aime vraiment beaucoup qu'on me dise ça. C'est vraiment très agréable. Je sais pas si les gens, enfin, c'est pas des buts pour beaucoup de gens. Moi, je pense que j'ai beaucoup cherché à l'être drôle et j'ai beaucoup échoué. là-dedans. Et donc maintenant, qu'on me dise que je le suis et que ce soit plus juste un cercle d'amis autour de moi, mais pas mal de gens quand même, toute proportion gardée, ça me fait plaisir.
C'est beaucoup d'amour aussi quand même d'être aimé, de faire rire. Il y a
En fait, il y a un cliché total dans ce qu'on dit de faire rire et que pourquoi c'est super. Mais c'est tellement cringe de dire ça et tellement machin. Mais c'est que on provoque une réaction. Enfin, disons qu'il y a une réaction. Genre, les gens ils sont contents de rire généralement. C'est un truc bien qui leur arrive. Ils aiment bien rire et ils n'ont pas décidé de le faire. C'est un truc malgré eux. Voilà. Donc il y a un peu ce truc dont provoque quelque chose de positif chez les gens malgré eux. J'arrête l'analogie là.
Dans ce livre aussi, on voit bien que c'est une peinture d'époque que vous faites, de plusieurs époques parfois, puisque les objets dont vous racontez les histoires racontent vraiment des époques. Par exemple, à un moment donné, vous parlez de la naissance du Parti écologique. Oui. Donc vous, en fait, vos histoires sont raccrochées aussi à l'espace-temps. Alors on a bien compris que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup, et notamment parce que nous vieillissons tous.
Oui.
Mais est-ce que dans le choix des objets, il y a aussi une réflexion sur les époques qui accompagnent ces objets?
Je vais choisir cet objet parce que ça raconte quelque chose.
Ou l'inverse, ça raconte, mais en même temps, c'est fou, je raconte ces histoires d'objets, mais oh là là, mais c'est toute une époque qui apparaît.
Oui, enfin, ça c'est un peu la façon naturelle que j'ai de raconter les choses, c'est-à-dire que beaucoup des chroniques que j'ai faites, je me ramène dans le passé un passé, disons, qui n'existe plus grâce à ces objets, grâce à une innovation technologique, quelque chose comme ça. Mais en fait, j'aimerais bien dire qu'il y a vraiment un fil conducteur et un principe de sélection des chroniques pour que ça fasse une fresque précise qui se complète. Non. Vraiment, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de critères pour choisir ce qui fait une bonne chronique, mais ces critères, c'est vraiment genre qu'est-ce qui va faire une bonne chronique, pourquoi est-ce que la chronique va être bien, s'il y a ça, 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 ça et ça, ce sera bien. Et a fortiori, bien sûr, une fois que les chroniques sont faites, qu'est-ce qui va faire que ça vaut de la transformer et de l'augmenter pour en faire une chronique qu'on imprime.
Et alors?
Oui,
c'est votre cuisine, ça?
Non, mais je peux tout à fait là. Alors non, il n'y a aucun secret. La première chose, c'est qu'il faut que je prends des choses, des objets ou des tendances ou qui sont susceptibles de parler à tout le monde. C'est-à-dire que je ne vais pas faire l'histoire d'un type de boulon qu'on utilise, parce que là vraiment ça ne parle à la personne. Donc c'est des choses qui résonnent un peu avec les gens. La deuxième chose, il faut que l'histoire que je raconte, elle ait un petit intérêt. Des fois, il y a bah tiens, depuis quand ça existe, qui c'est qui l'a fait? Ah ouais. C'est nul. Troisièmement, il faut que j'ai un petit truc, malin à dire dessus, genre un petit une petite formule, genre ah tiens, bien trouvé, malin. Faut aussi que j'ai une histoire personnelle à raconter sur la chose, et le mieux c'est quand même que j'ai des blagues à faire. Toutes les chroniques ne cochent pas toutes ces cases, mais plus elles en cochent, meilleure la chronique est. Et je pense que dans ce livre, en tout cas, il n'y en a aucune qui ne coche pas au moins plusieurs de ces cases.
Tout à fait. Ouais. Y en a une qui m'a beaucoup intriguée, c'est celle sur le changement d'horaire.
Oui.
Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires et de légendes sur le changement d'horaire. Mais vous, en fait, alors vous y allez en disant, non, mais en fait, voilà, c'est comme ça.
Puis... Je crois que je suis un petit peu plus prudent quand même, si je me connais.
Oui, mais vous arrivez quand même à nous raconter une histoire.
Oui. Oui. Le changement d'heure, bah, il y a cet entomologiste qui voulait avoir une heure de plus pour regarder les insectes. Il y a un vague truc pas crédible là-dedans, c'est que ça lui enlève quand même une heure le matin. Donc pourquoi est-ce qu'il décolle pas le matin? Enfin bon. Et après, il y a vraiment ce truc pour économiser de l'énergie, que c'était un truc pendant la guerre. Première guerre mondiale les Allemands ils ont fait ça, on me dit oh putain trop bonne idée, on va faire pareil, et finalement on a fini par l'appliquer. D'ailleurs, de façon les effets du changement d'heure ils sont controversés, quoi. C'est à dire que toutes les études qu'il y a eu sur la question, c'est il y en a qui sont pas du tout concluantes, c'est à dire que ça n'économise pas d'énergie, et celles qui disent que ça économise d'énergie disent oui, ça économise pas beaucoup. Oui. Donc, et par ailleurs, il y a des effets néfastes du changement d'heure, en particulier sur le fait que ça fait souvent, en hiver, ça fait perdre une heure de sommeil, et que cette heure de sommeil, on a remarqué que les lundis qui suivent les dimanches de changement d'heure, il y a davantage de crises cardiaques et d'accidents de la route. Ce qui pourrait s'expliquer par le manque de sommeil consécutif au changement d'heure. Donc l'un dans l'autre, moi, je pense qu'il faut arrêter.
Mais alors ça pose vraiment la question à nouveau de la véracité et la complexité de votre travail, mm-hmm. qui n'apparaît pas, puisque vous faites des blagues, c'est joyeux. Mais en fait, ben voilà, le changement d'heure, par exemple, c'est un sujet, tout le monde y va de son récit, de oui. son histoire. Et donc, qu'est-ce qui fait que... qu'est-ce qui est compliqué plutôt dans l'enquête que vous faites pour oui. être bien sûr de vos informations?
Alors, en ce qui concerne, comment dire, c'est pour ça qu'il faut être un tout petit peu prudent avec ce mot d'enquête pour ce livre-là. Parce que j'ai écrit une page à la fin de ce livre sur, oui. À propos des informations contenues dans ce livre,
voilà.
sur quelle avait été la méthode pour trouver ces informations.
C'est l'instant de cette interview où nous sommes à cette page-là.
Voilà, très bien. Et les restituer. Parce qu'effectivement, je fais un peu genre... des blagues comme ça, alors qu'en fait, bon, c'est sérieux, c'est précis, quoi. Et c'est vraiment important que ce soit précis et sérieux. Et en gros, on peut dire que dans les sciences humaines en général, dans le journalisme même, qui est un peu une science humaine un peu dégradée, il y a deux types de sources. On va dire, il y a les sources primaires, qui sont les sources chics, et il y a les sources secondaires, qui sont les sources moins chics. Les sources primaires, c'est j'ai recueilli 83 témoignages et je révèle une réalité qui n'existait pas jusqu'à ce que qui n'existait pas avant que ces témoignages aient été récoltés. Je suis allé fouiller sous la terre et j'ai vu qu'il y avait un morceau de mur qui correspond à un écrit que je suis allé voir moi-même. Ça, voilà, source primaire. Les sources secondaires, c'est en gros des choses qui ont déjà été écrites à partir des sources primaires, donc des articles scientifiques sur ces choses, des articles de journaux, etc. Et moi, dans ce livre, à quelques petites exceptions près, je n'ai consulté que des sources secondaires. Donc c'est moins chic que si j'étais allé moi-même révéler toutes ces choses dans un premier temps. Le truc, c'est que ça veut pas dire que c'est pas sérieux, et surtout, toutes ces informations ont été fact-checkées par quelqu'un d'autre que moi, à l'américaine. Les meilleurs, c'est vraiment à l'américaine, ça. C'est-à-dire que ça existe très peu en France. Mais dans les meilleurs journaux américains, en particulier le New York Times, et surtout mon magazine préféré du monde, le New Yorker, le journaliste, il écrit son article, et ensuite, il y a un fact-checker qui reprend l'article et qui vérifie toutes les informations vérifiables qui sont contenues dans cet article. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un interviewé qui dit... ce jour-là, je portais un pull rouge et je me souviens très bien, je me suis levé à 8h30. Il y a un fact-checker qui rappelle le monsieur ou la dame et qui dit vous portiez vraiment un pull rouge? Vous êtes vraiment levé à 8h30 du matin? Et la personne en face dit oui ou non, et c'est corrigé comme ça. Et bien, il y a quelqu'un qui... J'ai imposé, en fait, à l'éditeur qu'il y ait quelqu'un qui fasse ce travail, un fact-checker que je connaissais d'avant, qui faisait la même chose pour moi, pour mes chroniques sur Arte avant. Et il a pris toutes les informations vérifiables de ce livre et il les a vérifiées. Et en me disant genre, ouh là, attends, t'es un peu trop précis, c'est controversé ton truc, machin, t'es un peu trop précis, c'est dur à vérifier, mais un terme plus flou. Donc du coup, c'est pas faux puisque c'est plus flou que le truc précis que t'as dit. Si je dis 14h30 et que je dis, j'arrive pas à vérifier 14h30, mais en revanche, je peux dire l'après-midi, hop, on dit l'après-midi. Et en fait, on lui a donné de l'argent en plus à ce monsieur pour faire ce travail. Ce qui a un peu, j'ai dû dire à l'éditeur, bah oui, ça va coûter de l'argent. Et en plus, qu'est-ce que je voulais dire sur ce monsieur, sur ce fact-checker? Oui, et bien sûr, alors quand je dis information vérifiable, il y a des informations en anglais, on dit des informations qui sont on author. Ça veut dire que on considère que c'est ta petite subjectivité d'auteur et que tu as le droit de les dire. On va pas aller te les vérifier. C'est moi, si je dis, genre, quand je raconte. Quand je raconte, par exemple, le fait que ma mère a fait, avec une fermeture éclair, m'a fait beaucoup de mal quand j'étais enfant.
Oui.
Voilà, et que c'était la pire douleur de l'histoire de mon existence. Bon, bah voilà, on va pas aller vérifier ça.
C'est moi.
Voilà. Ou je peux dire aussi des choses subjectives. Je sais pas. quand je dis « Ah, c'est une des plus c'est une des meilleures inventions de l'histoire du monde », bon, bah voilà, c'est ma subjectivité qui parle, c'est pas un truc qui va être vérifié. Mais voilà, comment on est là.
Vous aimez les sciences autant que l'histoire ?
Oui, j'aime beaucoup les sciences. Le truc, c'est que je pense que je suis pas assez intelligent pour comprendre un certain nombre de choses. Je trouve, j'adore la physique, mais vraiment, je vois les limites de mon intellect face aux sciences dures, en fait. C'est pour ça que j'admire autant les gens qui font des sciences dures, c'est qu'il y a les sciences, en fait, où le bullshiter est très difficile. C'est-à-dire que c'est ça, c'est que je pense qu'il y a beaucoup plus de népotisme dans le marketing et je sais pas les institutions administratives que dans la chirurgie, parce que genre pistonner un enfant pour être chirurgien, s'il n'est pas compétent, plus dur, parce qu'au bout du troisième triple pontage raté, il va arrêter d'être chirurgien. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça que j'aime les sciences dures. Mais encore une fois, je suis pas à la hauteur des sciences dures.
Mais faut être un peu maniaque pour être aussi précis.
Oui, mais c'est bien, le monde il avance grâce à la précision. C'est ouais, bien sûr. Heureusement qu'il y a des gens maniaques. C'est un devoir, je pense, dans plein de domaines d'être maniaque. Oh non, je vais pas vérifier. Oh merde, il a fait la fusée, elle explose.
Donc vous aimez bien quand même les...
Je dis ça parce que c'est un vrai exemple. C'est exactement ce qui s'est passé avec Challenger. Il y a une histoire connue d'erreur massive. Je sais plus dans quoi, mais une erreur massive. Je crois que c'est lié à ça d'un quelqu'un qui a pas converti les miles en kilomètres ou les kilomètres en miles, et ça a donné lieu à des erreurs de calcul qui ont donné lieu à des tragédies, quoi. Donc ouais, être maniaque, c'est un devoir.
Dans ce livre, c'est amusant aussi parce qu'on se rend compte que finalement, il y a des histoires qui font partie de l'imaginaire collectif. Je pense par exemple à la pizza hawaïenne. Et donc, c'est rigolo parce que vous abordez aussi ce qui relève de la rumeur ou de la légende pour dire, mais comment... Alors, voilà, ça vient de là. Comment ça se fait que tout d'un coup, ça arrive là ?
Ah oui, la pizza hawaïenne. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de rumeurs sur la pizza hawaïenne, mais il y a une haine de la pizza hawaïenne qui est complètement irrationnelle, quoi.
Mais surtout qu'elle n'est pas hawaïenne.
Ah, elle n'est pas du tout hawaïenne. Non.
Déjà.
Non, non. Elle a été inventée par un grec au Canada. Et c'est un plat italien, au départ. Donc vraiment, il y a vraiment trois nationalités dans cette affaire. Aucune n'est... Enfin, ce n'est pas une nationalité hawaïenne, mais en tout cas, rien ne vient de Hawaï. C'est juste que les ananas en boîte qui ont été mises sur la première pizza à l'ananas étaient de la marque Hawaiian. Et donc, du coup...
Et voilà, comme ça, comment
on devient machin, ouais.
Parce qu'il est question de ça aussi, il est question des légendes. Dans les objets que vous abordez, on voit bien qu'il y a des objets qui sont devenus des légendes.
Oui.
Qu'est-ce qui fait légende par rapport au succès, par exemple ?
Je pense qu'il faut qu'il y ait une appropriation culturelle au sens où la culture s'approprie, pas l'appropriation culturelle au sens de s'approprier des cultures de minorité. Il faut que qu'il y ait un truc marqué dans la culture. Je pense que la fermeture éclair, on pourrait dire que c'est mythique, la fermeture éclair, parce que ça a été érotisé, parce que ça permet, c'est une ouverture facile de gens. La fermeture éclair, et donc du coup, c'est érotique un peu. Il y a d'autres choses qui ont été mythifiées par le cinéma, par la culture en général. Le truc de légende au sens de ça devient quelque chose de très important pour la culture, parce qu'on peut aussi la légende au sens de choses fausses,
Non, j'avais pas pensé à ça,
parce qu'il y a ça aussi, oui. Dans les chroniques sur Europe 1, des fois, je disais, ça m'est arrivé de raconter des histoires fausses en disant, genre, bon, alors je vous le dis, je raconte l'histoire qui est super, et je dis, alors je vous dis tout de suite, cette histoire est fausse. Mais alors pourquoi tu la racontes ? Parce qu'une histoire une histoire fausse, c'est mieux qu'une histoire vraie, mais si elle est bien. Mais je dis qu'elle est fausse quand même. Pourquoi tu la racontes ? Parce que franchement. C'était quoi la formule? Putain, elle était super, ma formule, et je viens de la foirer dans les grandes largeurs, là. J'ai raté mon moment. Non, c'est pas ça du tout que je dis. C'est vraiment, je mélange tout. Quelle honte. Non, je dis, une histoire avec des nazis, même fausse, c'est mieux qu'une histoire sans nazis, même vrai. Voilà.
Ah oui, tout d'un coup, ça prend corps, là.
Ça prend corps, voilà.
Bien.
C'est pas bien d'être nazi. Hein, voilà, je suis contre le nazisme, j'aimerais que ce soit clair. Je le dis publiquement. Elle est où, la caméra? Voilà, je suis contre le nazisme. C'est pas bien. Mais
donc, il y a quelque chose de l'ordre du conteur, quand même, que vous aimez. Et du magicien, un petit peu, parce qu'il y a aussi un côté... La vérité, c'est...
La vérité, c'est... Je sais pas si je vous suis complètement sur le fait que je suis magicien. Non, il y a, oui, il y a une petite joie. Il y a une petite joie à montrer ces vérités-là. Puis ensuite, on parlait de la légende au sens de représente quelque chose qui ont beaucoup de place dans les représentations.
Oui.
Oui, le bic par exemple. Alors j'en parle pas, mais je crois que j'en
oui,
parle
le
pas
bic, grand. Le Polaroid.
Le Polaroid, bah oui. Mais le Polaroid, parce que le Polaroid, le monsieur, il a inventé Edward Land, il a inventé le Polaroid parce que bah, voilà, c'est trop cool de faire des Polaroids. Il n'empêche que pendant longtemps, ça a été quand même la seule façon de faire des nudes. Parce que, enfin, de faire des nudes de façon discrète, safe. La seule façon de faire des nudes, c'était le Polaroid. Alors, ça coûtait 2,50 € ou 10 francs à l'époque, l'image. Mais au moins, on était sûr qu'on pouvait faire son... On prenait le nude et on offrait le nude à la personne qu'on aimait, et sans qu'il y ait l'intervention d'un tiers qui était susceptible de voir le nude. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Tout le monde le fait tous les jours de sa vie. À l'époque, c'était quand même la seule façon. Donc c'est vraiment, il a beaucoup fait, je pense pour l'érotisme. Et je pense pas qu'il a fait ça pour ça. Il n'empêche, ça a été approprié. Ça c'est les gens qui aimaient bien l'érotisme, ils se le sont appropriés.
Est-ce que, au fur et à mesure de vos recherches, vous avez vraiment fait des découvertes qui vous ont marqué?
Oui. Oh bah c'était un truc un peu fortuit, contingent, mais que j'ai quand même vachement aimé. Il se trouve que j'étais à Bourg-la-Reine pour me recueillir sur la tombe de Carlos. Parce que il se trouve que l'inventeur du café gourmand est né à Bourg-la-Reine. Donc je voulais me renseigner sur l'endroit où il était né. Et donc je me suis dit, bah tiens, il y a quoi à voir à Bourg-la-Reine? Ah, la tombe de Carlos. Et au cimetière de Bourg-la-Reine, je vois la tombe de Carlos, puis là je la filme un petit peu, puis là je me tourne et je vois la tombe, je vois une énorme tombe en béton armé, mais béton armé qui avait vieilli avec des poutrelles d'acier qui rouillaient dedans et qui s'effritaient un peu. Et je vois C.J. François Hennebic, l'inventeur du béton armé.
Il y a
la photo et j'ai adoré ce moment et j'ai immédiatement commencé des recherches sur le béton armé et sur ses origines et j'ai parlé au biographe Gwenaëlle Delumeau, au biographe de François Hennebic. Il y a un biographe de l'inventeur du béton armé. C'est-à-dire que quelqu'un, moi ça m'a pris un jour de ma vie ou deux de m'intéresser au béton armé. Lui, c'est des années. Tout le temps le béton armé, chaque jour. Je sais plus du tout pourquoi j'ai raconté cette
histoire. C'est pas très grave.
Mais je pense qu'il y avait un lien.
Mais dans votre livre, on découvre aussi par exemple qu'il y a un historien du pop-corn.
Ouais.
Il y a des gens qui ont des vraies obsessions et c'est rigolo quand même.
Et surtout des obsessions vraiment encore beaucoup plus pointues que les miennes. Moi, c'est l'origine des choses en général. On pourrait dire c'est déjà pointu. Eux, c'est non, juste le pop-corn.
Et c'est un engrenage? La recherche, c'est-à-dire on cherche d'où vient ce micro, puis finalement par extension on tombe sur une autre info qui fait que ah bah il y a aussi ça et clac et clac et clac.
Oui, je pense. Oui. Ça c'est très courant, ça, de faire un. Bah là, voilà un bon exemple. Pourquoi j'ai raconté l'histoire de Hennebic, je pense que ça résonnait.
On parlait des légendes. Non, je vous demandais si vous aviez eu des grandes surprises.
Surprise de tomber sur la tombe de François Hennebic, l'inventeur du machin, tandis que j'allais voir la ville de l'inventeur du café gourmand. Voilà, surprise. Et des surprises sur... Oh là là, tiens, c'est fou ce truc. Ah ouais, ça a été inventé comme ça. Ouais. L'invention du billet de banque m'a beaucoup surpris. Mais parce que je trouve ça brillant comme idée, le billet de banque. C'est quand même du papier. C'est du papier magique, quoi. C'est du papier, on dit... c'est du papier, et ensemble, collectivement, on dit non, c'est pas du papier. C'est de l'argent. Et la naissance de ça, quoi, qui était liée à qui était lié au fait qu'il y avait des gens qui étaient vraiment fiables, solvables, qui étaient, qu'on savait, ah, lui, il a toujours payé ses dettes, on peut lui faire confiance. Et tout à coup, cette personne à qui on faisait confiance s'est dit, mais tant, je peux payer juste avec un morceau de papier où je dis, je te dois tant.
Puisque je suis fiable.
Puisque je suis fiable. Et le truc, c'est que cette personne reçoit cette reconnaissance de dette, elle fait genre, franchement, je le crois. Mais après, le monsieur fiable, tout le monde le connaît dans le quartier. Et donc, on peut tout à fait transmettre cette reconnaissance de date du monsieur fiable à quelqu'un d'autre. Et comme ça, ça commence à circuler. Et c'est un billet de banque. C'est génial. Moi, je trouve que c'est génial.
Et ça, c'est dans le livre aussi. Et alors, donc, je reviens sur cette histoire d'engrenage. Au fond, est-ce que c'est aussi un petit peu ce que vous recherchez quand vous faites vos recherches et vos chroniques? Est-ce que ce que vous cherchez, c'est le moment où vous allez être émerveillé par une histoire? Est-ce qu'au fond, il y a de ça dans vos dents?
Je ne sais pas si je cherche à l'être, mais c'est toujours agréable de l'être. Ouais. Le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, dans ces chroniques, là en particulier, souvent dans les chroniques que je fais, c'est un mélange entre un truc que j'ai à dire sur la chose, donc soit une histoire personnelle, soit une remarque un peu maligne, et l'histoire de la chose. Et dans ce livre-là, il y a des fois où genre, je dis, bon, l'histoire n'est pas hyper intéressante, mais j'ai vraiment des bonnes blagues à faire, ou j'ai vraiment une histoire intéressante sur ma position sur la chose à raconter. Donc oui, par exemple, il y en a assez dans cette histoire sur le billet de banque. Il y a pas d'histoire personnelle parce que je suis tombé sur ce truc tellement passionnant.
Je comprends.
En fait, je dis rien de moi-même. Et donc là, c'est un bonheur. Mais quelquefois, je fais bon, l'histoire elle est pas top. Mais en fait, ça fait quand même une bonne chronique parce qu'il y a d'autres choses, quoi.
Par exemple, sur le bikini, qui est donc un atoll sur lequel vous vous amusez beaucoup.
Oui. Le truc, la plus grosse révélation sur le bikini pour moi, c'est que c'est un endroit, bikini. Et donc, le fait de parler de trikini pour les bikinis à trois pièces est un non-sens. Parce que un bikini n'est pas constitué de deux kinis.
Ça, je dois avouer qu'elle est assez drôle, cette page-là.
Et monokini, non plus. C'est pas un seul kini.
Oui, puisque vous enchaînez aussi sur les bistouquettes, du coup.
Oui.
Oui, forcément.
Ah, vous me faites rire avec mes propres blagues.
Ah ben, franchement, je fais pas exprès, remercier l'auteur.
Oui, une bistouquette n'est pas constituée de deux stouquettes, oui, c'est vrai. C'est pareil, c'est exactement la même idée.
Même principe. C'est bien, en fait, donc ça veut dire que...
Alors qu'une bicyclette, si.
Eh bien, voilà.
Ouais. Et un binôme aussi, deux nomes.
C'est-à-dire, c'est un coup à en perdre son latin, c'est le cas de le dire. Ouais. Puisque sur l'étymologie des mots, en fait, on le voit bien.
L'étymologie des mots, c'est une source, c'est un puissant fond de jouissance intellectuelle. C'est génial.
Oui, mais là, c'est vraiment remis en question quand même. Notamment avec des mots comme
en général. Ah non, non, c'est juste que les gens se trompent sur l'étymologie. C'est même pas qu'elle a une étymologie, c'est que.
Il n'y a pas d'étymologie.
C'est c'est le nom d'un endroit.
Alors, qu'est-ce qui fait, selon vous, le succès d'un produit? Est-ce que c'est son utilité ou est-ce que c'est la force d'un marketing à tout craint?
C'est une bonne question. Alors, ça dépend des produits. Pour le luxe, c'est, je pense, à 80% de marketing, 90% peut-être, même peut-être proche de 100%. Un sac Hermès... Vraiment, on l'achète si peu parce qu'il est de bonne qualité, quoi. Parce que s'il n'y a que ça qu'on recherche, on prend un autre truc où il n'y a pas marqué Hermès et qui va coûter cher, mais un dixième ou un vingtième du prix, quand même. Donc, pour le luxe, c'est presque uniquement du marketing. Après, il y a des choses qui ont... Le Polaroid, oui, il y a eu du marketing pour le vendre, mais c'est un produit... c'est un truc entièrement nouveau... qui révolutionne la façon dont on prend les photos et qui rend possible des choses qui étaient impossibles avant. Bon, ça, c'est peut-être un peu le marketing, mais ça, c'est surtout l'utilité de la chose. Le stylo Bic, pareil. Le grippin, l'aspirateur. Enfin, toutes ces choses-là, c'est des choses qui... Après, les trucs qui peuvent arriver, c'est tiens, pourquoi est-ce qu'on va préférer un aspirateur Hoover, un aspirateur Miele, un aspirateur... de marque d'une autre marque, et là effectivement il y a des trucs de marketing dans le fait de préférer une marque plutôt qu'une autre qui peuvent jouer. Moi, je sais que j'ai acheté... Il y a eu un moment où j'ai eu les moyens d'acheter de l'électroménager 1000. J'ai fait... J'ai acheté 1000. Et je n'ai pas fait un benchmark pour savoir si vraiment 1000, c'était mieux que le reste. Mmh. Ils m'ont eu avec leur réputation allemande.
Voilà. Parce qu'il y a quelque chose d'assez sociologique dans cette histoire. Qui achète des Bic et qui achète des stylos quatre couleurs qui sont déjà plus évolués? Qui achète...
Je pense pas qu'il y ait une stratification de classe entre... Enfin, plus. Peut-être dans certains pays pauvres. Mais je pense que globalement, les gens, ils ont des stylos quatre couleurs maintenant. Il n'y a pas...
Ça, c'est parce que vous n'avez pas d'enfant.
À lui, c'est un riche, il a un stylo quatre couleurs.
C'est parce que vous n'avez pas d'enfant que vous dites ça, bien sûr.
Ah ouais?
Oui, oui. Mais ce n'est pas le débat.
Et merci de retourner le couteau dans la plaie.
Il y a des... Enfin, c'est une enquête sociologique quand même aussi, ce travail, puisque certains objets racontent la consommation. Un aspirateur, ce n'est pas un aspirateur. Il y a plein de marques d'aspirateurs. Oui. Quel aspirateur se retrouve dans quel foyer? Ça raconte quand même des façons de vivre. Donc c'est aussi gentiment une enquête sociologique, votre travail.
Je ne sais pas si j'en parle. D'ailleurs, j'en parle pas tant que ça sur des stratifications de l'aspirateur. Enfin, ce qui se passe souvent avec, en tout cas, si on parle de l'électroménager, c'est que l'électroménager commence toujours par être un truc d'ultra luxe. Les premières personnes qui ont eu des aspirateurs, c'était des gens pétés de thunes. Les premiers gens qui ont eu des téléphones portables,
oui, la télé aussi.
C'était des gens de la télé ou le téléphone portable, c'était des gens de Wall Street, puisque ça coûtait 5 000 $, et donc il fallait que 5 000 $ soit une dépense qui puisse avoir du sens vu les budgets des gens. Et donc, avec les très riches, et puis tout à coup, ça baisse, et ça devient un truc pour tout le monde. Et ensuite, après, il faut différencier. Une fois que tout le monde a un téléphone portable, il faut trouver des façons que les riches continuent à en vouloir. Et donc, il faut segmenter le marché en faisant des trucs haut de gamme, bas de gamme. Machin, mmh. Et ça, c'est un truc, j'en parle pas dans le livre, mais c'est un truc assez quand même, enfin, très intéressant du marketing et de l'économie en général. C'est le pricing, c'est-à-dire que il faut, quand on est une marque, trouver des façons d'aller faire que les riches y payent le maximum qu'ils puissent payer pour un produit. Et pour ça, il faut trouver des raisons de vendre des produits plus chers ou de vendre des produits moins chers pour quand même aller voir les gens qui peuvent payer mais qui peuvent pas payer autant. Et il y a des histoires géniales comme ça. Il y a des je sais plus quelle marque d'imprimante dans les années 80 ou 90. Il faisait une imprimante qui imprimait tant de pages par heure, genre 60. OK, et qui donnait et qui vendait à un certain prix. Mais c'était quand même cher, ce prix, pour aller voir des gens qui n'avaient pas les moyens de ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir vendre l'imprimante moins chère aux gens qui ne pouvaient pas se payer aussi cher? Ils ont bridé volontairement l'imprimante en disant: ah, celle-ci, elle n'imprime que 30 pages par heure, c'est pour ça qu'elle coûte 200 francs de moins ou 200 euros de moins. Et ça, c'était un très bel exemple de genre: bon, les riches sont prêts à payer 200, donc c'est bon, eux on les a, mais comment on va chercher les autres? Bah, ça coûte moins cher de juste casser notre imprimante plutôt que de concevoir un autre modèle d'imprimante spécialement pour les gens moins riches.
Quand même.
Ouais. C'est pas hyper intéressant ce que je viens de dire.
Est-ce que moi je trouve que ça, c'est sociologiquement intéressant.
C'est pas mal, hein.
Est-ce qu'il faut aimer le progrès pour faire ce que vous faites?
Ouais. C'est une bonne question et je crois que ouais. Je crois que ouais. Et je sais que c'est même controversé, même comme idée, le progrès maintenant. Je pense que d'être optimiste, de dire genre, j'aime bien la technologie, j'aime bien que y ait de la recherche qui soit faite sur les choses, je m'enthousiasme pour ça. Il y a un côté un peu
montrer du doigt.
Je m'en fous du carbone, quoi. Un petit peu, ouais, un petit peu. Moi, ça m'enthousiasme énormément, les nouvelles technologies. Le progrès en général. Alors, je peux pas le hurler de façon aussi débridée que je l'aurais hurlé à une époque. Mais c'est pour ça que des fois, je le dis dans le livre même, j'ai des petites nostalgies pour les 30 glorieuses, quoi. Les 30 glorieuses où vraiment tout le monde trouvait ça génial. Le nouvel avion, le nouveau
truc. L'enthousiasme, en fait.
L'enthousiasme, mais même pour des trucs même dans la nourriture industrielle. Je pense que l'enthousiasme pour la purée mousseline, quoi. Ce qu'il y a dans ce film mythique de comment il s'appelle, le mec qui a fait les vacances de Monsieur Hulot, Jacques Tati. Jacques Tati fait un film comme ça sur l'ultra-modernité des années 60.
Mon oncle.
Mon oncle, exactement. Où genre, oh, tout le monde s'extasie de tout, et c'est le futur, et c'est trop bien, et tu verras, on pourra faire de la purée mousseline, avec juste des flocons. Oh, Théma, oh, purée mousseline, c'est chic. Voilà, ça a disparu, ça, ce monde, complètement. Des fois, j'ai une petite...
nostalgie.
À peine une nostalgie parce que j'ai pas, enfin, j'ai à peine, enfin, j'ai même pas vraiment connu ce monde-là, quoi. Mais un petit truc de genre, ah, ça devait être cool, cette insouciance. Coupable maintenant. À l'époque, pas coupable.
Alors, ce sera ma dernière question. Est-ce que finalement,
ça, par exemple, ça c'est un vrai truc de marketing très bien, ça. On va mettre de l'eau minérale dans des bouteilles de Bordeaux. Ouh, et moi je les ai vus arriver, ces trucs-là. J'ai fait, oh, je veux ça tout de suite, trop bien. En plus, ça vient d'Arcachon, donc il y a puis Abati, le nom,
il va être content, à mon avis.
Abati, quoi. Et
de ce petit spot
publicitaire, bravo, ouais. Bravo. Alors là, on est vraiment sur du 100% marketing, ouais. C'est-à-dire que vraiment, je sais
en
même
temps,
pas
qu'on est un peu sur l'eau d'Arcachon aussi, quand même,
oui, d'accord. Mais ça, c'est tous les trucs de machin de marketing, de ça vient de là, de tel endroit, et donc quand tu bois ça, tu bois l'endroit comme ça. Et comme si s'il y avait, comme si c'était aussi valable pour une eau minérale que pour un vin, ou pour le coup ça a vraiment du sens qu'ils viennent de Bourgogne ou de Bordeaux.
Ah, mais là vous savez très bien où vous êtes quand même. Vous
mais je sais. Mais dites-moi que vous sentez Bordeaux dans l'eau des abattis. Non.
Non non.
Vraiment. Arcachon. Ça, oui,
ça,
oui.
Ça sert entre les verres de vin pour faire des petites pauses.
Oui je sais.
Vous expliquerai après.
Mais est-ce que franchement vous la reconnaissez l'eau des abattis, genre ah oh, ça c'est de les abattis. Non.
Bon.
Putain, j'ai tellement envie qu'on organise là un truc, un fucking blind test où je vous en mets quatre.
Un buffet de dégustation, si ouais. Vous le permettez, je vous pose ma dernière question et après on attaque sur la dégustation à l'aveugle des eaux minérales, il n'y a pas de problème. Est-ce que vous avez tendance, gentiment, hein, à voir les objets, alors pas comme des personnes, ce serait exagéré, mais en tout cas...
Complètement.
Complètement ?
Pas complètement.
Voilà.
C'était complètement.
Voilà.
C'était complètement. Je commencerais à parler aux théières, tout ça, machin. Je l'ai fait quand j'étais enfant, de parler aux objets très fort. J'avais tout un tas de doudous qui étaient pris dans des catégories très différentes. J'avais une petite luciole, j'avais une petite bourse avec des pièces, j'avais un foulard et tous ces objets, je les faisais discuter les uns avec les autres. Et ils pouvaient introniser d'autres objets aussi. Par cooptation, il pouvait dire ouais, toi tu peux venir. Donc, c'est des trucs de l'enfance un peu magique. Mais maintenant encore, ouais, je trouve que les objets ils ont une personnalité. Je suis pas débile, je sais que c'est
oui.
Pas un machin, mais ouais, il y a
par exemple un attachement à la théière qui est là, qui est pas la même théière
tout à fait. Et je me souviens très bien de faire ça. Il y a ça très très fort. J'ai fait un épisode de Depuis quand sur les polices de caractère. Et dans les polices de caractère, elles ont des personnalités, les polices de caractère.
Oui.
Elles sont genre, des fois elles sont comme ça, des fois elles sont comme ça. Et c'est la même chose pour les objets. Et j'adorais faire ça. J'imitais les objets à une époque.
Et là, vous pourriez nous imiter un objet en restant assis sur votre fauteuil.
Est-ce que je peux imiter un objet en restant sur mon fauteuil? Non, je me souviens très bien. Alors, c'est peut-être un peu pointu, mais j'imitais un temple japonais qui s'appelle le Kinkakuji.
Oui, c'est ambitieux.
Qui est le pavillon d'or, c'est un des temples japonais.
En même temps, comme personne ne le connaît, on ne sait pas si ce sera ressemblant.
C'est vrai. Personne ne connaît le pavillon d'or. Non, et le Kinkakuji, il a un truc où genre il y a un truc très aérien dans la pagode du dessus et très dans la pagode du haut. Et je l'ai mis
en parce que tout le monde vous dit oui là, mais si là maintenant on demande à tout le monde,
mais je crois qu'ils disent oui parce qu'ils voient,
ils voient,
même s'ils connaissent pas,
un dessin précis de comment.
Ça va être machin, et surtout peut-être que c'est pas complètement propre au Kinkakuji, mais il y avait vraiment un truc de genre
pas mal.